Spectre 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Wow.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut débattre ton permis, ton vol, voler et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends une tâche dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est ta mise en faux.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez pas, niquez tout.
Canu Info du vendredi.
Bonsoir, bonsoir, vous êtes bien sur le Canu Info du vendredi. Et ce vendredi, on va commencer par vous raconter comment ce mercredi, la police stéphanoise a saboté une cérémonie de deuil.
On parlera ensuite du contrôle des restos et des fêtes pendant la pandémie.
Loi sécurité globale et loi contre les séparatismes, comment la poursuite de l'état d'urgence va être permanente.
On parlera également rapidement de la CNIL qui s'est portée au secours de cette fameuse loi sécurité globale et donc de l'état policier.
Et puis aussi une information sur un détenu qui a été tabassé à mort en prison à Meaux.
On ira ensuite dans le nord de la France, à Calais, pour vous parler de l'absurde confiscation des tentes des migrants et des migrantes. C'est pas nouveau, ça continue.
On restera dans le Pas-de-Calais pour vous parler du rassemblement contre Tropicalia.
Et puis, si notre camarade Lebowski arrive en studio d'ici là, on parlera des squats à Oullins et peut-être d'autres choses, nous a-t-il dit. Il est 19h04.
Et vous êtes bien sur le Canu Info du vendredi sur Radio Canu 102.2. Ce mercredi 3 février avait lieu dans une amicale laïque de Saint-Étienne la cérémonie de revoir à David en présence de sa famille et de ses amis proches. David est décédé en tombant du toit d'un bâtiment désaffecté. Il était fortement impliqué dans les luttes pour le logement des personnes sans abri et défendait la réquisition de bâtiments vides pour pallier au manquement de l'État. Toutes les personnes touchées par cet horrible accident ont donc pu venir montrer leur soutien à la famille et aux proches autour d'un pot en respectant les mesures sanitaires. Ce moment de deuil difficile n'a pas empêché la police nationale de débarquer sur place vers la fin de la cérémonie pour demander aux personnes de quitter les lieux, fusil à pompe en main, dans un bâtiment accueillant un centre de loisirs où avaient lieu à ce moment-là des activités pour les enfants. Les fonctionnaires de police ont également demandé les identités des personnes présentes afin de les verbaliser. Choqués de cette intervention brutale, en armes et dans un moment de deuil, les dernières personnes qui étaient en train de ranger et de faire le ménage ont protesté, ce qui n'a pas plu aux policiers qui ont décidé d'utiliser la force et ont embarqué une personne qu'ils ont jugée trop véhémente. Après avoir contrôlé tout le monde, les policiers présents en grand nombre dans la rue se sont alors équipés de casques et de boucliers et ont fait des sommations pour disperser celles et ceux qui, devant le bâtiment, demandaient la libération de leur ami. Après s'être dispersés, les soutiens allèrent montrer leur solidarité devant le commissariat, où ils et elles se sont à nouveau retrouvés nez à nez avec une ligne de policiers en armure. non content d'être le bras armé d'un État qui laisse dormir dehors des familles et pousse des militants et militantes à mettre leur vie en danger pour les mettre à l'abri. Les bien mal nommées forces de l'ordre ont donc décidé de venir troubler un moment de deuil, et tout ceci en riant et en insultant les personnes présentes. Pour information, la personne qui a été arrêtée a été relâchée jeudi matin, donc hier, et elle est inculpée de rébellion avec violence. Pensée et soutien donc pour elles et eux.
Et on va enchaîner tout de suite avec les bars et les restos clando. Vous en avez peut-être entendu parler, c'était le sujet notamment de la dernière dépêche de Livo sur Arte Radio. Et d'après le décompte arrêté par le ministère de l'Intérieur, 743 ouvertures irrégulières d'établissements accueillant du public ont été enregistrées après contrôle des forces de l'ordre pour la seule journée du 31 janvier. Et 90 concernaient des bars et restaurants clandestins. Mais alors, c'est une autre question qui se pose pour les journalistes du Monde qui publient un petit article un peu rigolo aujourd'hui, puisqu'ils nous apprennent que policiers, gendarmes et magistrats contrôlent peut-être en dehors de toute légalité. Ils contrôlent donc pendant le couvre-feu, après 18h, en dehors de toute légalité. Le ministre de l'Intérieur, jeudi 4 février, s'est félicité du bilan affiché par les forces de l'ordre. Démantèlement de 190 rassemblements festifs, plus d'1,9 million de contrôles du couvre-feu et au moins 177 000 amendes notifiées depuis le 15 décembre 2020. Pourtant, la question de la régularité de ces interventions se pose au monde judiciaire avec une acuité grandissante à mesure que passent les semaines. Et un commissaire de police qui reconnaît même, c'est un flou juridique, pour ne pas dire un vide total, une vraie faiblesse en tout cas. La question se pose en fait essentiellement, mais pas uniquement, pour les fêtes et soirées privées qui se déroulent entre 21h et 6h du matin. Dans ce laps de temps, la loi interdit formellement aux forces de l'ordre de pénétrer dans un domicile privé, en dehors de quelques cas exceptionnels, notamment de terrorisme, de criminalité organisée, de violence domestique ou accord du propriétaire des lieux. L'état d'urgence sanitaire voté le 22 mars 2020 n'a rien changé à l'affaire. Le législateur a depuis longtemps sanctuarisé la notion de domicile. Alors, la question qui se pose, c'est dès lors, comment appliquer les strictes consignes du ministère de l'Intérieur en respectant, en même temps, le principe d'inviolabilité du domicile? Procureur et forces de l'ordre ont trouvé une réponse. Le bluff. Et c'est eux que je vais citer là tout de suite, donc des flics qui disent « Lorsque nous sommes avisés de l'organisation d'une fête clandestine, le parquet nous délivre une réquisition sur le fondement de la mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Grâce à ce document, nous parvenons à impressionner le propriétaire et là, et c'est comme ça la plupart du temps, il nous autorise à entrer chez lui. » Donc grâce à ce petit formulaire délivré par le parquet, réquisition sur le fondement de la mise en danger délibérée de la vie d'autrui.
Mais qui, du coup, ce que tu dis, c'est que normalement, ça ne permet pas de rentrer chez les gens, ce document-là.
Ça ne permet pas, d'accord. Mais du coup, ça fait peur aux gens, personnes qui, selon cet officier de police qui témoigne, regardent beaucoup de séries américaines. Puisqu'il continue, il dit « L'astuce repose en grande partie sur la confusion entretenue dans l'esprit du public par le fameux mandat de perquisition vu dans des séries américaines mais inconnu en droit français. C'est pratique, mais on est limite sur le plan du droit, poursuit un gradé de la gendarmerie. C'est plus que limite, oui, en effet. D'autant qu'une note établie par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice le 23 mars 2020 et que Le Monde donc a pu consulter, recommande formellement d'écarter la qualification, justement, celle que tu me faisais répéter, de mise en danger délibérée de la vie d'autrui en cas de non-respect des mesures de confinement. Pourquoi ? Bah parce que la pandémie ne motive pas ce délibéré, puisqu'il n'y a pas de risque immédiat de mort ou de blessure grave, et ce n'est pas une condition qui paraît remplir donc toutes ces questions. Donc, une demi-douzaine de policiers et gendarmes de tous grades ont été interrogés par les journalistes du Monde. Et ils se disent donc tous et toutes contraints de mettre en œuvre cette méthode, faute de mieux. Il n'y en a pas un qui a dit qu'il faisait autrement que ça. Hein. Et faute de mieux donc pour appliquer des consignes ministérielles qui sont, elles, de plus en plus fermes, et notamment pour des raisons de communication gouvernementale. Une telle stratégie, qui mobilise les effectifs en nombre et pendant des heures, c'est la seule légale en réalité, j'ai oublié d'en parler, j'ai sauté une ligne, cette stratégie c'est celle d'attendre devant le lieu de fête. Puisqu'ils n'ont pas le droit légalement de rentrer, ils devraient attendre à plusieurs pour ensuite poser des contraventions aux fêtards qui sortent à une heure où ils n'ont pas le droit de sortir puisqu'il y a couvre-feu. Et une telle stratégie est extrêmement coûteuse, puisque, et puis en plus ils ne savent pas si tous les amis qui se réunissent ne vont pas dormir dans l'endroit où ils sont. Donc c'est pas viable comme stratégie. Même si de ci, de là, hein, entre camarades, on a entendu parler de flics qui restent quand même longtemps devant des logements où il y a la fête, et qui mettent des coups de pression en l'occurrence de ce type-là.
Mais là c'est différent, parce que le document qu'ils utilisent, c'est même pour dire « t'as pas le droit d'être plus de temps chez toi ».
Celui-ci là ?
Bah, le truc de mise en danger là.
Oui.
C'est pas que tu respectes ou pas le couvre-feu, c'est que t'as pas le droit d'être,
oui,
d'avoir des gens et de faire la fête chez toi.
Tout à fait.
Ça serait ça.
Mais ça serait ça, mais ça c'est un bluff,
oui,
puisque
voilà.
Ce truc de mise en danger de la vie d'autrui, ça marche pas sur.
Oui, on a bien compris ça.
Merci, merci, j'ai eu peur. Voilà. Donc, privés de consignes claires sur les taxes applicables, les procureurs de la République phosphorent depuis des mois sans succès pour le moment afin de combler l'importance lacune juridique qui s'étend aux conditions de contrôle des restaurants et des débits de boissons. Pour la seule journée du 3 février, donc cette fois-ci donc sur les restaurants et les débits de boissons, donc les clandos, hein, ces bars et restaurants clandos, 587 d'entre eux ont ainsi fait l'objet d'une visite des forces de l'ordre. En un jour, donc le 3 février, 587. Soit trois fois plus que la veille. Mais là encore, nous ne sommes pas toujours dans les clous, se désole un policier en poste dans le sud de la France. Si le contrôle d'un établissement accessible et ouvert ne pose aucune difficulté, un simple tour de clé suffirait en revanche au propriétaire d'un restaurant clandestin pour compliquer singulièrement toute intervention. Il s'enferme. Hein. Certes, policiers et gendarmes disposent du pouvoir théorique de forcer l'entrée en cas de soupçon ou de constat de flagrant délit, mais se trouver attablé dans un restaurant en période de crise sanitaire constitue une infraction passible d'une simple contravention, non un délit. Et sans délit, pas de flagrant délit. Impossible aux forces de l'ordre d'intervenir donc et de forcer la porte. C'est pourtant ce que nous faisons quotidiennement, confesse le policier. Et la preuve, selon maître Éric Morin, avocat au barreau de Paris, je cite monsieur Morin, que de petites atteintes systématiques à nos libertés individuelles s'ajoutent les unes aux autres comme un millefeuille. Au prétexte de la pandémie, on légitime toute intervention. Alors, pour poursuivre, on vous donne un petit peu le goût de la fête. Vous pouvez sauter chez vous, maintenant.
Sweats
vous êtes toujours à l'écoute du Canu Info et vous venez d'entendre Damage Goods du groupe Gang of Four. On va maintenant parler de loi sécurité globale et loi contre le séparatisme. Je laisse la parole à mon camarade avec moi dans les studios.
Merci, merci beaucoup. Vous avez un joli accent anglais,
n'est-ce pas, hein?
Votre mère était prof d'anglais, vous aussi?
Bah non, parce que la vôtre?
Oui.
Ah oui, c'est ce qui me semblait.
Et donc, en pleine pandémie, alors que les indicateurs sociaux s'affolent, la question se pose. Elle se pose notamment chez Bastamag. Assina Meshaï a écrit un joli article qu'on a un petit peu synthétisé ici. La question qu'elle se pose, c'est à quoi vont servir les projets de loi dite sécurité globale et l'autre projet de loi moins connu, mais on en a parlé plusieurs fois à ce micro, ce qui s'appelle désormais confortant le respect des principes républicains, titre bien ronflant pour ce projet de loi qui au départ était annoncé comme un projet de loi contre les séparatismes. Ça vous parle peut-être un petit peu plus. Si de plus en plus de voix s'inquiètent du risque qu'elles font peser sur les libertés publiques, on en est ravis hein, qu'il y en ait de plus en plus de ces voix qui s'élèvent, mais ces nouveaux projets ne sont en rien un coup de tonnerre dans le ciel serein des libertés de la République chérie. En d'autres termes, c'est pas tout à fait nouveau. Et Assina Meshaï remonte donc dans son papier aux lois de 2015 et notamment à la proclamation de l'état d'urgence après les attentats de novembre 2015, état d'urgence qui portait en lui le paradigme juridique, politique et philosophique d'un mouvement normatif sécuritaire en France. Ce qui veut dire, en gros, que c'est des lois d'exception qui sont mises en place et qui vont petit à petit s'installer dans le droit commun. Voilà, pour beaucoup de Français, à l'époque, l'état d'urgence qui a été mis en place entre 2015 et 2017, et puis ensuite, donc, comme je disais, qui a été porté dans le droit commun après les élections présidentielles, pour beaucoup de Français, cet état d'urgence a été indolore. Ils l'ont tout simplement, pour certaines et certains d'entre eux, pas vu. Il a été tout juste matérialisé par des soldats armés qui patrouillaient dans la rue. Une présence qui, même parfois, était pour certaines et certains sécurisante dans cette France meurtrie par les attentats. Mais pour d'autres, l'état d'urgence a été synonyme d'un appareillage juridique et administratif porteur d'une violence réelle, une violence portée par l'État. L'autorité administrative, donc l'État, a pu limiter ou interdire la circulation dans certains lieux, interdire certaines réunions publiques ou fermer provisoirement divers lieux publics, réquisitionner des personnes ou moyens privés, autoriser des perquisitions administratives, interdire de séjour certaines personnes, prononcer des assignations à résidence ou banaliser les interdictions de manifester. On en a vu beaucoup ces dernières années. À l'événement absolu qu'ont été les attentats, il a été une réponse absolue de l'État, donc la mise en place de cet état d'exception permanent. Une réponse sécuritaire, un effet d'aubaine qui a permis à l'état d'urgence la contamination du droit commun jusqu'à devenir donc le paradigme juridico-politique qui a porté des lois postérieures et notamment celles qui sont en ce moment en circulation au Parlement, qui font navette donc entre l'Assemblée nationale et le Sénat, la loi sécurité globale et donc la loi contre les séparatismes. Le récent rapport du Défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante, sur le projet de loi d'abord appelé donc contre les séparatismes, est très court, mais il est aussi très sévère, ce qui au passage nous montre que cette autorité, elle au moins, contrairement à la CNIL, on pourra en parler dans un instant, reste très indépendante vis-à-vis du pouvoir politique. Le défenseur des droits dit donc sur cette loi séparatisme, je cite, « Il semble ainsi qu'à l'instar de précédents textes de loi, en particulier ceux relatifs aux différents états d'urgence depuis 2015, l'action publique se replie dans la facilité apparente de la restriction des libertés. 5 grandes lois de liberté donc sont touchés par la loi contre les séparatismes. C'est notamment les lois de 1881 sur la liberté de la presse, 1882 sur l'instruction primaire obligatoire, 1901 sur les associations, 1905 sur la séparation des églises et de l'État, la loi de laïcité, et 1907 sur l'exercice public des cultes qui sont donc modifiés ou impactés par ce projet de loi. C'est donc pas rien, hein, c'est les lois qui sont cardinales en France sur les garanties des droits et des libertés. Donc c'est un paradoxe évident et inhérent à l'état d'urgence, tout autant qu'à l'état sécuritaire, limiter la liberté au nom de sa défense et menacer des droits et principes au nom de leur protection. Un paradoxe que le défenseur des droits n'oublie pas de souligner, puisqu'il dit que le texte, je cite, « concerne pratiquement tous les droits et les libertés publiques constitutionnellement et conventionnellement garantis et les plus éminents d'entre eux ». Ces libertés qui sont donc au cœur des principes républicains sont donc menacées. Et l'autorité administrative de s'étonner que certaines de ces dispositions en affaiblissant précisément ces libertés aient pour effet d'affaiblir les principes républicains eux-mêmes plutôt que de les conforter et de les promouvoir. Voilà, donc le projet de loi remet notamment, alors on va pas aller dans le détail de tout, hein, mais il remet partiellement en cause la loi sur la laïcité de 1905. Pour rappel, cette grande loi pose le principe de la neutralité des services publics, donc de ses agents, les fonctionnaires, dans l'exercice de leurs fonctions, notamment en matière religieuse. Ce principe de neutralité devait être étendu aux salariés des entreprises délégataires de services publics, selon cette loi contre les séparatismes, ainsi qu'aux entreprises ayant passé un contrat de commande publique, donc plus du tout à des salariés fonctionnaires, au risque de faire de l'entreprise, après l'école, le lieu des prochaines tensions religieuses. Alors pourquoi après l'école ? Bah parce que on se rappelle qu'au milieu des années 2000, la loi sur le voile à l'école avait déjà complètement dévoyé la loi de 1905, puisqu'on demandait désormais aux élèves de ne pas venir à l'école avec des signes ostentatoires, c'était ça hein, je crois le terme de religion. Notamment, ce qui était visé, c'était évidemment les jeunes filles qui venaient avec un voile, ce qui était une façon de revoir complètement les fondements de la laïcité, puisqu'auparavant, seule l'école se devait d'être neutre, et les fonctionnaires, les professeurs, eux aussi. Donc là, en fait, on entend faire la même chose chez d'autres salariés qui ont une délégation, qui travaillent pour une entreprise qui ont une délégation de services publics. Voilà, donc le projet de loi, donc c'est juste un exemple, ça, hein, contre le séparatisme, étonne donc notamment parce qu'il met en place, il étonne pas mal d'observateurs, puisqu'il met en place une société de suspicion et de crispation. Il peut se lire comme, nous dit l'autrice de cet article, comme le second pan du diptyque législatif formé avec la loi sécurité globale. Donc d'un côté la loi contre les séparatismes, de l'autre la loi sécurité globale. La première se saisit de l'espace public immatériel, par exemple les croyances, les idées. La seconde a posé une série de mesures portant sur l'espace public, lui, matériel, avec notamment les dispositions sur l'utilisation de caméras mobiles par les forces de sécurité, ou encore, on en a parlé un petit peu plus, le déploiement massif des drones qui sera dès lors sécurisé. L'état d'urgence depuis 2015, on se rappelle hein, que l'état d'urgence il date pas au passage de 2015, mais il date de la guerre d'Algérie. Il a été mis en application pour la première fois sur les territoires algériens encore colonisés en 1955. Cet état d'urgence, justement, quand il a été remis en place en 2015, puis quand il est rentré dans le droit commun en 2017, il a été légèrement modifié par rapport à sa mouture initiale, et notamment, alors il y a pas mal de points hein, qui ont été revus, mais il y a notamment une nouvelle formulation qui permet au ministre de l'Intérieur d'assigner à résidence toute personne, je cite la modification, à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Donc là, on passe d'un comportement avéré à de sérieuses raisons de penser que l'individu est menaçant. On passe donc de l'objectivité à la pleine subjectivité, de la légalité à l'arbitraire. En fait, on est un petit peu comme dans le film, je ne sais pas si tu as déjà vu Minority Report, tu vois ? Ça t'a fait penser, j'ai vu dans tes yeux, t'as directement pensé à ça. Le film donc où on arrête les criminels avant qu'ils aient commis le crime. Assigné pour ce qu'on est supposé faire, pas pour ce que l'on a fait. Donc c'est un glissement pas anodin du droit commun. Voilà, Donc on est encore là-dedans, hein, ce dispositif dérogatoire de l'état d'urgence qui avait été modifié donc en 2015 est rentré, comme je disais il y a un instant, dans la loi, donc la mise dans le droit commun de l'état d'urgence, c'est la loi SILT qui a été votée en octobre 2017, juste après, enfin quelques mois après l'élection présidentielle. L'état d'urgence s'est donc normalisé. L'invocation par les États de problèmes de sécurité nationale poursuit l'autrice ou de terrorisme s'est traduite également par la pénalisation de nombreuses formes d'expression ciblant des militantes et militants, des journalistes ou des citoyens lambda. Pour comprendre le glissement, il suffit d'observer, nous dit-elle, l'expansion du domaine de la radicalisation. Longtemps accolés aux seuls islamistes, les radicalisés maintenant ce sont aussi, et on l'entend aussi dans la presse, hein, pas seulement par les ministres par exemple, ce sont par exemple les gilets jaunes. On a même parlé à la fin du mouvement des gilets jaunes pendant les grosses émeutes des ultra jaunes, je ne sais pas si tu te rappelles. Les militants également écologistes, on les qualifie souvent de radicalisés, enfin bref, les mouvements politiques et d'opinion. La loi sécurité globale, elle, dans le même temps et récemment, a fortement mobilisé, et donc on peut s'en réjouir. Par contre, celle dite contre les séparatismes, elle a moins interpellé, elle mobilise moins dans la rue. Toutes deux formes pourtant un diptyque, comme l'a dit l'autrice tout à l'heure. Et finalement, en fait, ce silence autour de cette loi contre les séparatismes, pour elle, ça ressemble un petit peu au silence qu'il y a eu entre 2015 et 2017 autour de l'état d'urgence qui était constamment renouvelé. Et c'est précisément ce silence qui a permis, par la suite, l'empilement de lois liberticides, et notamment les deux dernières. Elle s'interroge alors, est-ce parce que la seconde loi, celle contre les séparatismes, ne semble viser que les citoyens musulmans et musulmanes, même si les autorités s'en défendent maladroitement. À travers les mesures cosmétiques portant sur les mariages polygames, l'héritage, les certificats de virginité, c'est tout un imaginaire inquiétant de l'islam qui a été convoqué. En projection anecdotique, infinitésimale et pour tout dire, déconnectée du réel de l'islam en France. Mais le fond de cette loi porte des conséquences liberticides qui toucheront tous les citoyens. Pour la majorité des Français, l'état d'urgence a été quasiment invisible, dit-elle. S'il a touché des militantes et des militants, les outils de l'état d'urgence ont d'abord ciblé des musulmans, l'administration portant d'ailleurs une confusion entre islam, islam radical et djihadisme. Dans certains dossiers, les trois notions se retrouvaient quasiment confondues. S'il a servi à mettre au banc une partie de la population, il est aujourd'hui le cadre normatif et légal pour toutes et tous. Les lois contre le séparatisme et la loi sécurité globale, qui est par ailleurs une réponse mot pour mot d'un livre blanc portant toutes les demandes du ministère de l'Intérieur, et donc des flics, s'inscrivent dans la même logique des lois d'exception. Un état sécuritaire et un état légaliste. Et je pense qu'elle a complètement raison de le rappeler, un état sécuritaire, il s'assoit tout le temps sur la mise en place de lois, et notamment de lois d'exception. Le XXe siècle l'a bien montré, l'Italie de Mussolini en fut le premier laboratoire, et l'état d'urgence, l'état d'exception, son principal outil. Aujourd'hui, le Parlement vote les projets de loi du gouvernement, finalement, pour sortir de l'état de droit. C'est quelque chose d'un peu absurde, c'est un peu la mauvaise farce de l'époque. Et face à cette mauvaise farce, on se dit, ah mais il y a des garde-fous. À la fin des années 70, il y a notamment la CNIL qui a été créée, et là c'est la quadrature du net qui nous a pondu il y a un jour ou deux un petit article où il monte...
Tu peux dire ce que c'est la CNIL ?
Oui, alors là, c'est... non, je peux plus.
C'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
ouais,
un truc
voilà,
comme ça.
C'est ça. C'est
qui
ça,
vient c'est normalement vrai. Dire comment nos données, elles sont prises sur Internet et protégées du coup des données et tout ça, je crois. C'est un truc comme ça, non ?
Tout à fait. Et protéger la vie privée, ouais, en fonction de ce qui est, de ce qui circule, notamment aujourd'hui sur Internet et la captation de ces données. Et donc la CNIL vient de... Concernant donc cette CNIL, cette commission, elle a vocation à se saisir des lois pour vérifier justement si elles protègent la liberté, l'anonymat, enfin toutes ces questions qui ont trait aux citoyennes et aux citoyens. Et donc, elle s'est saisie de plusieurs des articles de la loi Sécurité Globale, qui est donc en ce moment en train de circuler entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et elle a remis son avis sur plusieurs articles qui touchent aux drones et aux caméras. Alors, on ne va pas vous lire ni vous faire un compte-rendu total de ce qui est de ce papier qu'on a retrouvé sur le site de la Quadrature du Net. Mais en gros, ce qui est dit, c'est que la CNIL, elle a à peu près tout validé et qu'elle est allée donc au secours de cet état policier en apportant quelques petites nuances, mais en gros tout est validé. Et de toute façon, dans tous les cas, aujourd'hui la CNIL n'a plus qu'un avis consultatif, donc même si elle ne valide pas, dans tous les cas le gouvernement et le Parlement peuvent passer en force. Donc quand même, elle pourrait peut-être dire des fois, non mais en fait c'est un peu gros là, vos lois liberticides que vous faites passer. Bah même ça, elle le fait pas. Voilà, voilà, c'était peut-être un peu long. Alors,
On fait une petite pause de musique,
ouais,
pour le temps de digérer tout ça avant ça te va ?
Ça me va, ouais, t'as envie d'écouter de la trappe.
Allez, vas-y.
Alors on va écouter Lala S, je crois que c'est une rappeuse lyonnaise et elle vient de sortir son album là, fin janvier 2021.
Fucking melody la ne négocie pas le talent, ça se recopie pas. Son cul se fait un torticolis, roule les pédales, roule le lila. C'est Airbnb, pas d'Avila. Ils ont tous une paire de visages, j'ai toujours une paire de fissages. Mais avec du goût, pas de fila. Je suis avec Martina, Tina, Malatina. Elle fait beaucoup d'eau comme Brita. Je peux entrer dans son habitat. Juste un tour qu'elle nique le climat. On sait toutes les deux ce qu'elle fait là.
C'est pas très bien ce qu'elle fait là.
Et elle a sortir de l'anonymat. Y'a des moments qui te changent pour la vie. Y'a des gens qui partent pour la vie.
La vie.
Si c'est une fan, viens chercher ta fille. Sur la peau, tu fais que de la magie. Dans la sauce comme aromasie. Et tout était saoul comme à Passy.
Il
me recopie pas, c'est le bitch, ne m'associe pas.
Viens,
on fait des tours. La fucking mélodie là. Ne négocie là. Alors ça se fait bitch qui la roule. Je vais le faire si je suis là. Y'a besoin de quoi, j'suis dans le stuff, j'ai les trucs, j'ai les comptables, juste pas fait pass, bro. C'est lui, I'm on track, bro. Mets-toi à l'aise, bro. Tu prends quoi qu'à moi, je sers, bro. Right sur les spawns, bro. Moi je perds, c'est toi tu perds, bro. T'as vert, bro. Danse le cha-cha dans le trap, bro. Attends que je l'attrape, bro. Prends une biche comme moi, elle perd, bro. Mais j'te la laisse, bro. Prochaine fois, mais lui la laisse, bro. Car moi je laisse, bro.
C'est le bitch, ne m'associe pas.
Viens, on fait des tours.
Tous la fucking mélodie, la vie. Ne négocie pas le talent, ça se recopie pas.
Viens, on fait des tours. T'étais sous mon amour.
Lala S, donc, et en bref, ça s'est passé à Meaux, dans la maison d'arrêt de Meaux-Chauconin. Une enquête a été ouverte par le parquet suite au décès d'un détenu qui, a priori, il y a peu de doutes sur alors les suites de l'enquête, si, mais sur ce qui s'est passé réellement. Un détenu a refusé de rentrer dans sa cellule. Il a été violemment tabassé par les matons. Et le début de l'enquête nous dit que les surveillants, constatant qu'il était devenu subitement calme, ont appelé l'unité médicale. Le jeune homme a ensuite été transféré à l'hôpital par le SAMU alors qu'il était en arrêt cardiovasculaire. Donc il a été tabassé à mort par ses bâtons. Selon les résultats de l'autopsie réalisée, c'était mercredi, des ecchymoses et contusions ont été retrouvées sur le corps du détenu, mais n'ont pas eu d'incidence sur le processus mortel. Bah bien évidemment, hein, c'est sûr, on le bastonne. On retrouve ensuite des ecchymoses, des plaies, des bleus, et puis ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit mort. Donc on n'a pas trop de doutes sur ce qui s'est passé. Par contre, on n'a pas non plus trop de doutes sur l'accusation. Des matons et le rendu de la justice sur cette affaire. Tout de suite, on va dans le nord de la France, à Calais, chronique de la misère ordinaire.
Et oui, à Calais, où l'expulsion tous les deux jours des terrains occupés par les migrants et migrantes se double d'une confiscation de leurs effets personnels. Tant duvets, documents sont en théorie stockés et peuvent être récupérés. Dans les faits, ce sont 8 à 10 tonnes d'affaires qui finissent chaque mois à la poubelle. L'éloignement des journalistes lors des expulsions ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de la presse, a estimé le Conseil d'État ce mercredi 3 février. Le juge des référés a ainsi débouté les deux journalistes, qui sont par ailleurs les auteurs de l'article là donc, que je vais vous lire, qui se plaignaient de ne pas avoir pu pénétrer dans les périmètres de sécurité mis en place par la police entourant des opérations d'évacuation près de Calais et Dunkerque. Ces opérations d'expulsion menées toutes les 48 heures dans 7 endroits différents de la ville de Calais sont suivies de peu d'effets, tant en termes de mise à l'abri que d'accompagnement social, notamment en ce qui concerne les mineurs isolés. Il faut juste, à intervalles réguliers, faire le vide sur place, éviter les points de fixation, c'est ce que nous dit l'État. Pour éviter les installations de campements, plusieurs leviers existent. La mairie de Calais a ainsi lancé une série de déboisements le long des routes et dans les zones de promenade, là où les migrants et migrantes ont l'habitude de camper. Autre moyen de pression, l'expulsion régulière des terrains occupés, avec saisie des effets personnels laissés sur place. En 2020, Human Rights Observer, HRO, je l'appellerai HRO par la suite parce que ma mère n'étant pas prof d'anglais, c'est compliqué pour moi à dire.
Donc, je comprends.
Donc en 2020, HRO a comptabilisé 967 expulsions. De plus, les opérations se déroulent sans interprète. Impossible donc d'échanger avec les forces de l'ordre pour réclamer l'essentiel. Impossible de passer le cordon des gendarmes pour aller récupérer ses affaires. Tout ce qu'ils n'auront pas pu traîner en vitesse dans la bâche à leurs pieds sera soit jeté, soit emporté. Il leur faut donc vider les lieux, puis négocier, réclamer leurs biens. Une routine à laquelle se plient de mauvais gré migrants, migrantes et associations qui les accompagnent. Après le passage des uniformes, des silhouettes en veste bleue s'activent. Ce sont les nettoyeurs d'APC, société privée sous contrat, qui récupèrent les objets susceptibles de faire l'objet d'une réclamation. Le convoi se termine immanquablement par un camion chargé de tentes, duvets, tapis de sol, vêtements, téléphones, documents ou argent. Et tout ça, ça va où ? Jusqu'en janvier 2018, à la poubelle. En colère, les associations avaient porté plainte, mais une plainte qui avait été classée sans suite. Depuis, l'État a mis en place un processus spécifique que à Calais. Outre les nettoyeurs d'APC, un acteur de l'économie solidaire a été sollicité pour récupérer et mettre à disposition les affaires emportées. Elle aussi, située dans l'est de la ville, la ressourcerie du Calaisis, gérée par Facevalo, une association d'insertion, fait office de dépôt donc depuis 3 ans, depuis donc janvier 2018. Un accord non lucratif, comme le précise un encadrant technique du magasin qui souhaite rester anonyme. Il dit « Nous sommes simplement défrayés à la quantité d'objets qui passent par le stockage, ici, au poids. Nous tenons des registres. » Les quantités en question, ce sont plusieurs tonnes par mois, dont des centaines de tentes. Selon HRO, qui documente l'action des pouvoirs publics à Calais, ce sont 528 tentes et bâches qui ont été prises rien que sur le mois de décembre 2020. C'est donc à la ressourcerie que les migrants et migrantes se regroupent en fin de matinée, toutes les 48 heures. Mais ceux et celles qui viennent des autres camps plus éloignés ne viennent presque jamais, malgré le fait que HRO les informe du dispositif lors de ces maraudes. Le manque de temps peut expliquer ce désintérêt. En effet, l'accord prévoit un accès aux affaires 2 heures durant tous les jours ouvrés de 10h à midi. des horaires qui coïncident avec la fin des expulsions matinales d'une part et les distributions de nourriture et d'eau de l'association de l'autre. Il faudrait un peu comme s'il fallait faire un choix entre sauter un repas ou aller chercher sa tante et ses affaires. Le taux de casse et de perte explique aussi le peu d'intérêt des migrants et migrantes pour système. Il n'est pas rare que le camion d'un PC arrive d'ailleurs pas à 10h mais plutôt vers 11h20, décharge des tentes disloquées, brisées, alourdies de matériel. Pour certaines, elles ont d'ailleurs déjà fait ce voyage 4 ou 5 fois. Une tutelle supplémentaire, ce sont les bénévoles de HRO et non les migrants-migrantes eux-mêmes qui doivent remettre la liste des objets réclamés, suivant ce que du coup ils ont pu observer. Parce que problème supplémentaire, comme les journalistes, HRO est maintenu en dehors des cordons de police et ne peut donc pas correctement observer ce qui a été pris. En plus de noter les atteintes aux droits humains, l'asso fait le décompte selon ce que du coup ont pu leur rapporter les personnes qui viennent d'être expulsées et compare avec ce qui est déchargé quelques heures ensuite. Ces charges ensuite aux personnes migrantes, autorisées à entrer en groupe de trois, de venir faire le tri et récupérer leurs affaires. Avec ces moyens, HRO travaille à comptabiliser le différentiel affaires prises, affaires restituées en état. Sur l'année écoulée, 52% des personnes venues réclamer leurs affaires ont déclaré les avoir récupérées en état satisfaisant et en totalité. Un taux qui s'effondre à un inquiétant 27% quand il s'agit d'objets de valeur, comme les médicaments, les smartphones, l'argent ou des documents administratifs. Une juriste de la cabane juridique, qui est une structure d'accompagnement des migrants et migrantes, recueille, elle, les doléances de ceux et celles qui ont perdu un papier. Elle dit « 9 fois sur 10, aller réclamer un papier perdu en ressourcerie se solde par un échec. Au lieu de compter dessus, les déclarations de perte et demandes de récépissé se systématisent, simplement pour ne pas être en défaut trop longtemps face aux autorités. » Dans les faits, les affaires restent très majoritairement jetées et le conteneur vidé environ tous les 10 jours. Selon le magasin, ce sont 8 à 10 tonnes d'affaires non réclamées qui finissent chaque mois emportées par les camions poubelles, direction un site d'enfouissement à 30 km à vol d'oiseau. Voilà pour Calais. On reste, je crois, dans le nord de la France.
Ouais.
Non ?
Ouais, ouais.
Si.
Ouais.
Alors dis-nous.
Ok. Je mets un petit beat. Imaginez une serre de 20 000 mètres carrés culminant à environ 30 mètres de hauteur. Imaginez en plein cœur du Pas-de-Calais. Moi j'ai du mal à imaginer, je suis jamais allé dans le Pas-de-Calais. T'imagines toi ?
J'imagine, mais je sais pas si j'imagine spécifiquement dans le Pas-de-Calais, j'y suis jamais allé non plus.
Cette serre de 20 000 mètres carrés abriterait une flotte tropicale ainsi que des animaux exotiques tels que des reptiles, des papillons, des poissons, des oiseaux. Élaborée en 2016, cette zone tropicale sous cloche est censée voir le jour en 2023 à quelques kilomètres de Berck-sur-Mer. Ce projet coûte quand même 73 millions d'euros. Il est en partie financé, évidemment, comme souvent, sur des fonds publics. Et son concepteur, l'ancien vétérinaire Cédric Guérin, le présente comme un jardin d'Éden. Il dit « Tropicalia, ce sont différents écosystèmes reconstitués. L'idée étant d'emmener le visiteur dans une immersion, dans un concept de jardin d'Éden, donc très fleuri, avec des oiseaux, des cascades, des poissons, dans un but pédagogique. » Le maire du rang du Flié, Claude Coin, a été saisi, conquis par cette idée et par ces mots. Pour lui, il serait synonyme d'emploi et de tourisme, 500 000 visiteurs annuels qui sont ainsi espérés. À ses yeux, ceux qui s'érigent contre Tropicalia, c'est le nom de ce projet de serre pharaonique, sont des ayatollahs de l'écologie. Dans son viseur, près de 38 associations qui s'opposent au projet. Elles ont même déposé un recours qui évoque le manque de données pour déterminer le réel impact qu'aura Tropicalia sur son environnement, c'est peu dire. Notamment en consommation d'eau. Ça nous fait un petit peu penser à Center Park, vous savez, ce projet qui devait avoir lieu à Roibon et qui finalement a été abandonné, notamment grâce à la lutte menée par des militantes et militants en Isère. Et des projets comme celui-ci, il y en a ailleurs. Les inquiétudes des militants écologistes porte en particulier sur l'impact lié au chauffage de la serre maintenue toute l'année à 28 degrés dans le Pas-de-Calais. Pour Nicolas Fourcroy, l'un des porteurs de Tropicalia, le projet serait au contraire la seule serre intégralement chauffée avec des énergies renouvelables, solaires, thermiques, géothermiques. En été, elle pourrait même générer un surplus qui servirait à alimenter un hôpital voisin. C'est pas beau ?
Bah si.
Bah ouais. Outre le trafic routier généré par les visiteurs, les opposants craignent eux également les dommages écologiques causés par la construction de la serre. Le projet s'étend sur 10 hectares, alors même que les pouvoirs publics se sont engagés à cesser l'artificialisation des sols. 10 hectares, c'est pas rien. Si l'incertitude plane donc sur le début des travaux, les militants appellent à un rassemblement ce 6 février, c'est demain, contre un projet qualifié d'aberration écologique, économique et démocratique. Alors voilà, ce projet c'est quoi ? C'est finalement recréer un jardin d'Éden artificiel. Quand on, dans le même temps on est en train de tout niquer ailleurs sur la planète. Et là-dessus, il y a un chiffre là qui m'a marqué sur un article qu'on peut retrouver dans The Conversation, qui met en général en lien un journaliste et un universitaire, et qui reprend en fait cet article, un papier paru dans la revue Nature, et qui nous dit, ce papier, que d'après des chercheurs du Weizmann Institute of Science, un institut israélien, une étude donc scientifique montre que la masse mondiale produite par l'homme dépasse toute la biomasse vivante. Alors, je cite, « Nous constatons que la Terre se trouve exactement à un point de croisement. En 2020, la masse anthropogénique, c'est-à-dire qui a été produite par les sociétés humaines, qui double en fait tous les 20 ans environ, hein, si on regarde la fin du XXe siècle, tous les 20 ans, cette masse a doublé avec l'accélération de l'industrialisation et sa globalisation, sa mise en mondialisation. Eh bien, elle va donc dépasser cette masse produite par les êtres humains, toute la biomasse vivante mondiale, et c'est même en 2021, on est content. Le record est évidemment atteint et on a donc dépassé la biomasse vivante. Voilà, donc c'est quoi tout ça ? Ben, c'est un milliard de véhicules par exemple qui roulent sur Terre et qui sont encore présents sur Terre, plusieurs milliards de smartphones, d'ordinateurs et de tablettes, les routes qui sont construites, les bâtiments, les villes, hein, l'extension de ces villes, la masse colossale, nous dit l'article, de vêtements. Également. 7 milliards d'humains, évidemment, qui sont de plus en plus intégrés à ces logiques de consommation et du capitalisme mondialisé, ça fait beaucoup, beaucoup de produits qui sont fabriqués et donc finalement beaucoup de poids. C'est peut-être juste un chiffre, il n'y a pas grand-chose peut-être à en tirer de nouveau, mais c'est marquant à quel point les sociétés humaines ont des incidences et un poids de plus en plus important sur le reste du vivant. Et pour stopper un peu la machine, la lutte, ça compte. On l'a vu, j'en parlais là il y a un instant, un roi bon pendant la pandémie, au printemps 2020, je crois, le projet a été abandonné. Et puis quand la lutte... ne suffit pas, enfin ça suffit tout, je sais pas ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire sinon ?
La fête.
Allez, on danse. We need drag.
Some Sunday morning see you picking up the fun, ticking down the last time before the credits run. And traffic isn't moving, or it's moving awful slow. To the sound of you complaining, we got nowhere left to go. You need a drug to make the stars come down. You need a drug to make you shine. You need the pills to take you home again. Don't be so loud.
Et alors, on doit bien se rendre compte que notre petit camarade Lebowski nous a fait faux bond, et donc vous n'aurez pas de nouvelles de Squad Doulin. J'espère qu'il ne s'est pas fait arrêter dans la rue.
Ni de peut-être autre chose d'ailleurs.
Voilà, et puis on n'a pas prévu le petit jingle agenda, mais on va quand même vous parler d'un petit rendez-vous. Ça se passe demain dans le quartier de Montchat. Et dans le quartier de Montchat, vous êtes attendu, si vous le souhaitez, à 10h. À 10h, on a le droit de circuler dans le squat récent qui s'appelle le Tauchamon. Et pourquoi ça s'appelle le Tauchamon? Tu viens de trouver, Zed?
Non, je suis pas sûre maintenant, parce que je trouve que ça fait Montchaton. Mais...
Bah ouais, c'est ça, Montchâteau. Montchâteau.
Ah, Montchâteau.
Mais il y a un château à Montchat en plus.
Voilà, ouais, Montchâteau, pas Montchaton. Oh, c'est rigolo, Montchaton quand même. Non, mais c'est Montchâteau.
En tout cas, c'est au 85 rue Trarieux. Et donc, vous êtes attendu demain à 10h dans ce lieu pour plusieurs petits projets qui sont plutôt courts à monter. Et demain, le projet, c'est la construction d'un poulailler. Alors, si vous n'avez jamais fait ça, ou au contraire, si vous avez déjà fait ça, allez-y. Ça sera aussi l'occasion de rencontrer les gens là-bas autour d'un café, de thé, de bissap. On en passe, disent-ils. Et voilà, et ça sera sans doute très sympa. Pour le reste des activités de demain, il y a également, je crois, une rencontre autour du livre Le Manifeste Différentialiste d'Henri Lefebvre. Et c'est à 15h, de 15h. À 17h, et ça se passe au 169 Grande Rue de la Guillotière, jauge maximum de 12 personnes. Voilà, vous retrouverez tout ça dans les pages agenda de votre site local préféré, évidemment, Rébellion. Écoute, je crois que j'ai fini de raconter des trucs. T'en es où, toi ?
Moi, j'ai fini de raconter des trucs, mais ça tombe bien parce qu'il est 19h57.
Dans 3 minutes, c'est Noise Pollution. Et puis nous, on se retrouve sans doute vendredi prochain. Continuez d'écouter Radio Canu, vous avez bien raison. C'est sans doute ce qu'il y a de mieux à faire en ce moment. Allez, bisous, à tout vite.
Bon week-end.
folks, I got a great wife. It always seemed that everything was better in today. Sure, I suppose that I need down another fifth. Tell myself, forget pocket, the grenade, and both men. But giving in is overrated. And I'm sick of being faded. And I'd like to have time to rejuvenate it. So I'll have to wipe the sweat from our brows, tears from our eyes, booze from our mouths. I know shit's going south, but we got this just as long as we don't kick to the escape room. Just chug along and everything will play out fine. Or maybe it won't. Not delivered glass.